Vous êtes sur RTL.
Bonsoir Sophie.
Bonsoir.
Je vous écoute.
Bonsoir, enchantée. Je vous appelais ce soir parce que très récemment, j'ai rompu tout lien, toute communication
oui.
avec mes deux parents.
Oui, les deux en même temps.
Voilà.
Oui.
Eux, ils sont ensemble, ils sont mariés et je me sens tout à fait bien qu'un peu coupable, si je puis dire, parce que voilà, ce sont mes parents.
Oui.
Et je vous appelais voilà, pour vous raconter aussi mon histoire et pour savoir si du fait de cette histoire, c'est normal et puis si peut-être bah, je peux continuer comme ça toute ma vie ou voilà, si c'est normal, si ça arrive parfois oui. à quelqu'un. Voilà.
En tout cas, c'est vraiment pas facile comme décision.
Ouais, tout à fait.
Qu'est-ce qui vous a amené jusque-là?
Disons que j'ai eu une enfance un peu malmenée.
Oui.
Voilà, mon père est quelqu'un de très autoritaire, qui a été très injuste avec mon frère et moi.
Vous êtes l'aîné?
Non, je suis la cadette.
D'accord.
Et très peu aimant, on va dire. Voilà, c'est quelqu'un qui a jamais voulu avoir d'enfant et qui l'a toujours beaucoup revendiqué. En fait, c'était un peu la blague qu'on faisait à la maison. Voilà, que sont évidemment pas une blague, hein, mais voilà.
C'est drôlement difficile à entendre, en effet.
C'est ça, qu'ils auraient préféré être tous les deux. Voilà, disons qu'ils se sont toujours privilégiés l'un et l'autre plutôt que nous, quoi.
Votre mère aussi, elle partageait cette blague entre guillemets?
Ah oui, tout à fait. Elle m'a même dit pas mal de fois que voilà, mon père, déjà qu'il voulait pas avoir d'enfant, alors une fille, c'était vraiment voilà, c'était le choc, quoi.
Eh bien.
Et donc voilà, mon père, c'est quelqu'un qui va vous dire que voilà, que vous êtes un cerveau, que vous êtes une connasse quand vous avez 8 ans.
Il vous a insulté à ce point-là?
Ah ouais, bah plein de jurons bien pire que ça. Et voilà, ça peut dater d'il y a 20 ans, comme d'il y a un mois, quoi.
Et ça n'a jamais changé? C'est-à-dire son attitude était linéaire ou il y avait des moments où il était mieux que d'autres?
J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est toujours complet dans la tristesse des autres. Donc on va dire que c'est quelqu'un qui, par exemple, je pourrais raconter tellement de choses, mais par exemple on va être dans les bouchons sur l'autoroute quand on était petit, et voilà, il va apprendre que c'est parce qu'il y avait un accident, et quand il va passer à côté de l'accident, il va serrer les dents et il va dire j'espère au moins qu'il y a eu beaucoup de morts, quoi.
Oula, c'est extrême. C'est extrême.
C'est quelqu'un qui est toujours dans l'extrême, en fait.
Oui,
qui va pousser
oui.
des violentes infâmes, qui va faire peur. Moi, c'est quelqu'un qui m'a toujours fait profondément peur.
Mais j'imagine, vous deviez être terrorisée, enfant.
Exactement, en fait. Oui. Exactement ce mot, terrorisée, toujours terrorisée. D'ailleurs, avec mon frère, on était très, très proches parce qu'on s'est beaucoup soutenus, en fait. Sans lui,
c'est souvent ce qui arrive dans ces cas-là. Heureusement que vous étiez deux.
Ouais, c'est ça. Donc on s'est beaucoup soutenus.
Oui.
Et voilà. Donc moi, forcément, j'ai eu quelques années à vide, je dirais. Enfin, quelques années. J'ai une bonne vingtaine d'années de ma vie où voilà, j'ai passé par pas mal de drogues, par des relations d'amour. Un peu, voilà, toujours à choisir les mauvaises personnes, voilà, des jobs manqués, enfin...
Vous étiez dans une forme d'errance, en fait, où vous aviez pas de socle.
Ouais, c'est ça, un peu le hamster, quoi, dans sa cage. Donc, voilà, même si au final, j'ai toujours réussi plutôt à m'en sortir, mais on va dire que j'arrive... Ouais, c'est comme si j'arrivais jamais à sortir la tête de l'eau, véritablement, quoi.
Vous trouviez quand même une forme d'accroche à l'école ou à l'école puis au collège, au lycée? Vous aviez quand même un peu de socle à cet endroit-là ou pas du tout?
Oui, quand même. Je me suis toujours relativement accrochée. J'étais très bien entourée. Je suis quelqu'un de très sociable, donc je me suis toujours beaucoup accrochée à mes amis qui m'ont aidée. Enfin, voilà, après, on avait aussi... voilà, ça, pour le coup, j'étais dans une famille relativement aisée. Donc, on avait du soutien scolaire, des choses comme ça. Ça, pour le coup, mes parents m'aidaient.
Quand même, ils vous donnaient les moyens d'étudier au moins.
Oui, tout à fait.
Oui. Ils soutenaient même vos études un peu.
Ouais, tout à fait. Je pense ça pour le coup, c'est vraiment ma mère qui s'est chargée de tout ça et ça, mmh. Voilà, à ce niveau-là, elle a été là pour moi et voilà, elle m'a aidée à passer des entretiens, enfin voilà, financièrement.
Sophie, c'est vraiment le plan affectif qui posait problème. Vos parents faisaient un certain nombre de choses pour remplir leurs devoirs éducatifs ou un minimum d'accompagnement. Et c'est vraiment dans le domaine affectif et des sentiments que c'était un vrai problème.
Voilà, c'est totalement ça. Moral et affectif, en fait. Du coup, c'est constamment de la dévalorisation. C'est, voilà, si vous avez un compliment, c'est parce que... Il va vous dire, voilà, toi au moins t'es rigoureuse, pas comme ta mère, toi au moins t'es ceci, pas comme ton frère, enfin des choses.
Même votre mère, elle était dévalorisée ? Il dévalorisait aussi sa femme ?
Ah bah plus que jamais. Elle aussi c'était une connasse, elle aussi elle avait rien dans le cerveau. C'est devenu quelqu'un qui est. Pour moi, ma mère, c'est une passoire, quoi. C'est quelqu'un qui a plus aucune confiance en elle.
Vous avez vraiment vécu un enfer.
Ouais, après c'est vrai que en fait le fait qu'on ait que ce soit balancé avec le fait qu'on ait été aisé,
oui,
ça a totalement empêché le fait qu'on ait pu s'en plaindre en fait avec mon frère.
C'est-à-dire quand vous dites ça a empêché le fait qu'on ait pu s'en plaindre, vous n'en parliez pas du tout à l'extérieur, vous gardiez ça secret, ce que vous viviez à la maison?
Ah ouais, totalement. Totalement, vraiment, on en parlait avec mon frère et c'est vrai que ça a été, parfois, c'était même, voilà, on essayait d'en rire tous les deux parce que c'était, voilà, c'est quelqu'un qui est complètement, en fait, il est un peu malade, quoi. Par exemple, s'il fait tomber sa fourchette par terre, il va se taper la tête contre le mur. Vous voyez, il est un fou, quoi.
Oula, en fait. Oui.
Ouais, oui. C'est ça.
Ça l'a abîmé, Ça l'a abîmé.
Donc.
Et ensuite, Sophie, au fil de votre adolescence, et comment vous en êtes arrivée à quitter la maison? Je suppose que là, bon, vous n'avez pas rompu avec vos parents tout de suite. Vous avez d'abord quitté la maison? Comment ça s'est passé?
J'ai quitté la maison, moi, assez tôt. En fait, à 18 ans.
Oui.
Mais voilà, pour le meilleur, hein, pour une école, etc. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que quand même, quand il y a une emprise... vous voyez, mon père, c'est quelqu'un qui est un bourreau. Je sais que... Enfin, pour moi, il ne m'aime pas et c'est quelqu'un qui va quand même vous appeler 3 fois par jour, quasiment tous les jours.
Vous voulez dire que dès lors que vous avez quitté la maison, alors même qu'il vous a dit ne pas vouloir d'enfant, c'est lui qui essayait de maintenir le lien et même un lien extrêmement fréquent, c'est ça?
Ah ouais, totalement. Pour ne rien se dire du tout. Pour juste m'appeler pour parler mal des voisins ou de ma tante, enfin des choses sans futiles, quoi.
À l'époque, ça devait vous sembler très énigmatique, le fait qu'il veuille absolument garder ce lien alors que vous pensiez qu'il vous aimait pas. Comment vous avez compris ça?
Comment j'ai compris?
Oui, comment vous, parce que c'est assez paradoxal. Vous pensiez, vous aviez des raisons pour ça. Vous pensiez qu'il ne vous aimait pas et il essayait de maintenir un lien très fréquent. Ça a dû vous dérouter. Comment vous compreniez ça? Enfin, vous arriviez à vous y repérer?
Je pense que c'est justement pour ça en fait que j'ai pendant 20, non peut-être pas 20 ans, je dirais, mais pendant 15 ans, j'ai été totalement. J'ose le dire, accro à la marijuana et je sais pas si ça répond à votre question, mais en fait, j'étais comme dans un nuage, j'étais pas moi-même, en fait. Maintenant que, voilà, ça fait 2 ans que je ne fume plus du tout et c'est vrai que, on revit, en fait. Ah, d'accord, c'est ça, de vivre dans le monde réel, en fait.
Oui.
Et c'est justement pour ça, là, que j'en suis arrivée à totalement rompre les liens parce qu'en fait, je suis comme éveillée. Et j'ai vraiment survécu grâce au sport. J'ai entamé une reconversion en fait dans le sport il y a 2 ans.
Oui.
Et donc en fait c'est un cercle vertueux. Donc ça va avec de la meilleure nutrition, un meilleur sommeil, une meilleure hygiène de vie globale en fait. Et et un esprit clair et un corps fin, quoi. Donc
ce que vous dites, c'est que c'est en commençant à prendre soin de vous que vous avez pu rompre avec vos parents.
C'est tout à fait, en fait. J'ai été face à pas mal de situations, dont une là qui s'est produite il y a à peu près un mois, en fait. Oui. Juste avant un déménagement, voilà, qui entamait cette reconversion, cette nouvelle vie et cette fuite loin d'eux. J'ai été chez eux, en fait, pendant une semaine. Et donc, moi, j'ai une routine, voilà, c'est que voilà, je vais me mettre dans mon lit à 10h, je vais lire, et puis voilà, vers 23h, 23h30, je vais m'endormir.
Oui.
Et lui, donc, il rentre du boulot, évidemment, voilà, c'est lui, il n'y a que lui, quoi. Donc, je l'entends de mon lit gueuler en bas, donc voilà.
Donc, rien ne change.
Complètement fou. Ah non, rien ne change, oui. Mais c'est statu quo. Donc, je l'entends, il monte furieux dans ma chambre, il déboule. Complètement fou. Donc, en fait, il se fiche de moi. Ça, je m'en rends compte maintenant. En fait, il voit bien qu'il dérange totalement ma paix. Je suis dans mon livre, bien. Il est complètement fou. Et il me demande, enfin, il exige, en fait, que je descende pour dîner avec lui. Alors qu'il est 10h, 10h30, et que je lis. Et qu'en plus, on ne s'aime pas, en fait. On n'a jamais rien partagé. Donc, on n'a pas de raison de faire ça, comme à l'époque, quoi.
Oui, je comprends que vous disiez que vous vous aimez pas, mais lui, il a l'air d'énormément tenir au lien. Donc, je comprends que vous puissiez pas appeler ça de l'amour, mais en tout cas, de son côté, il y a quelque chose de fort. C'est pas une façon d'excuser du tout, hein. C'est une façon de dire que c'est pas facile de rompre parce que lui, de son côté, enfin, pour lui, le lien est quelque chose de fort, même de passionnel. Si on considère que la passion, c'est aussi les aspects les plus sombres, lui, il y met une dimension passionnelle dans ce lien.
Ouais, très certainement.
Oui.
Très certainement.
Et
et du coup, bah, c'est vrai que de cette situation, en fait, j'étais tellement bien dans ma peau et tellement éveillée. Et en fait, j'avais plus peur cette fois que voilà, qu'il porte la main sur moi, qu'il me traite.
Oui.
En fait, j'étais voilà, maintenant je suis 1m82, je suis musclée, etc.
Vous êtes une sportive.
C'est ça. S'il veut en venir aux mains, en fait, venons-en aux mains, en fait.
Vous avez senti à certains moments que ça pourrait dériver de ce côté-là?
Totalement. Ça a déjà été pas mal de fois le cas dans le passé. C'est quelqu'un, voilà, quand il vous regarde, c'est de la haine, en fait.
Vous savez, peut-être pour vous donner un petit repère clinique et ceux qui nous écoutent aussi, ce qui me semble caractériser la figure de votre père, c'est le passage à l'acte. Ce qu'on appelle le passage à l'acte, c'est commettre des actes au moment où notre pensée est court-circuitée. C'est-à-dire, il ne pense pas, c'est une décharge directe de pulsion en acte. Il a décidé de dîner avec vous, ça doit se faire immédiatement, c'est un passage à l'acte, il ne réfléchit pas. Et si vous sentez que ça pourrait en venir au coup, c'est que vous sentez aussi que ça pourrait être un passage à l'acte, qui ne serait pas pensé du tout. Ça me semble être une caractéristique de la figure de votre père. Enfin, c'est peut-être en ça qu'il est perturbé, pour ne pas dire qu'il y a quelque chose de problématique là, dans son fonctionnement psychique.
Oui, j'imagine qu'il y a quelque chose de problématique dans son fonctionnement psychique. Ça, c'est,
voilà,
c'est,
enfin, bon, je prononce volontairement, je ne prononce pas des mots forts du type malade, mais enfin, en tout cas, il y a quelque chose de pathologique dans le fait qu'il traite son lien à l'autre sur le mode du passage à l'acte. L'insulte, c'est une passage à l'acte, débouler dans votre chambre aussi, le coup que vous redoutez aussi. Donc là, il y a un point symptomatique, pour ne pas dire pathologique, qui n'a aucune chance de changer. Déjà, peut-être, ça peut un peu éclairer votre question.
Tout à fait, ça, c'est ce que mon frère me dit tout le temps, Sophie. Ne pense pas qu'ils changeront un jour. Moi, enfin, lui, il me dit, moi, je vais mieux maintenant que je sais qu'ils ne changeront jamais.
Oui, ça, je crois que c'est par rapport à votre décision que vous êtes la seule à pouvoir prendre en dernier ressort, bon, ce qui n'empêche pas d'en parler, mais il me semble sûr que ce point de lucidité est nécessaire. C'est que votre père a un fonctionnement psychique qui remonte à loin, qui remonte à des choses dans sa propre enfance qu'il n'a pas pu guérir, qu'il n'a pas pu soigner. Bon, ça, c'est son affaire. Mais sans qu'il y ait une démarche vraiment de soins et de guérison, il n'y a aucune chance que son rapport à l'autre, qui est extrêmement violent, qui est, dans, encore une fois, dans le passage à l'acte, qui a aucune chance que ça change. Ça, vous avez raison de considérer que c'est une donnée de base, et votre frère aussi.
C'est ça.
Oui.
Tout à fait. Et c'est vrai que parfois, c'est vraiment quelqu'un de... Voilà, là, cette, durant cette, cette première, d'ailleurs, dispute, entre guillemets, parce qu'on... De milliers de fois, il nous a engueulés. Voilà, c'est un euphémisme. Mais là, pour le coup, on s'est... j'ai osé répondre. Et c'était, voilà, il... en fait, je l'ai vu aller dans des strates où il allait de toujours, de plus en plus bas, tellement, en fait, il était. En fait, je l'ai vu perdu parce que, voilà, il me disait, bah, déjà, il a commencé à me dire, on était vraiment égoïste. Avec ce rythme de vie, mais jamais tu trouveras d'homme qui voudra te suivre dans ce rythme de vie.
Vous êtes en couple, Sophie ? Vous avez quelqu'un dans votre vie ?
Non, non, non.
Oui, donc là, pour l'instant, il n'y a pas de personne, de tiers, sur lequel vous puissiez vous appuyer pour essayer de mettre à distance cette relation avec votre père, qui, encore une fois, est passionnelle sur le plus mauvais versant du terme. Donc là, pour l'instant, voilà. Vous êtes encore en prise directe avec lui.
Bah, en fait, c'est pour ça que j'ai, et c'est pour ça aussi que je vous appelle, c'est que donc oui. Là, depuis 3 semaines, donc j'ai déménagé, et donc loin quand même, je suis à plus de 800 km de chez eux, donc je pense que c'est pas anodin, sachant que je suis allée dans une ville où je ne connais personne.
Bah oui.
Et en fait, je les ai bloqués, ce qui peut paraître très très puéril, mais je les ai bloqués tous les deux. Et franchement, mais je me sens tellement bien. Et voilà, et je sais par mon frère que voilà, ils comprennent pas évidemment. Ils disent mais comment c'est possible qu'elle veuille pas qu'on connaisse sa nouvelle vie, nanani, qu'on vienne chez elle.
Alors vous dites que vous vous sentiez bien, donc ça je veux bien le croire. Vous avez dû trouver une certaine paix. Est-ce que aujourd'hui une certaine culpabilité vous rattrape pour que vous vous posiez la question de d'éventuellement reprendre les liens, enfin en tout cas que vous vous interrogiez à nouveau ?
Moi je me pose pas du tout la question pour l'instant de reprendre les liens.
Oui.
Je me demande si bah, la culpabilité en fait elle vient du fait simplement du terme ce sont mes parents, ils m'ont donné la vie, donc est-ce que maintenant est-ce que ça arrive pour des gens qui ont eu des enfances voilà plus ou moins malmenées, tragiques, etc. de rompre les liens et est-ce que en tant que personne on peut voilà continuer à se construire normalement voilà tout en n'ayant plus de contact en fait avec ces gens, parce que si c'était des amis, c'est bien longtemps que s'ils m'avaient traité comme ça, on se parlerait plus. Donc je veux dire, pourquoi en fait mes parents, parce qu'ils m'ont mis au monde, c'est insensé.
Je comprends, ça c'est extrêmement difficile, c'est vraiment une question éthique. Mais ce qui me semble, Sophie, c'est que si vous avez rompu radicalement les liens avec vos parents, c'est qu'il n'y avait aucun moyen d'évolution possible. C'est que vous avez ressenti, à juste titre à mon avis, que votre père a ce fonctionnement-là et n'en bougera pas. Votre mère aussi, peut-être à un degré moindre, mais c'est sur cette entente que repose leur couple. Donc ce système-là est bien verrouillé. Donc je crois qu'il n'y avait pas d'autre solution que de rompre avec eux pour trouver un peu de paix. Maintenant, la question, à mon sens, est plutôt, dans la mesure où ce sont vos parents, jusqu'à quel degré vous pourrez avoir un lien minimal ? Alors, ce que j'entends par lien minimal, c'est par exemple, vous décidez de vous en tenir à présenter vos vœux, peut-être même pas directement, par message écrit, vous pouvez vous en tenir à souhaiter certains moments symboliques. C'est ça que j'entends par le fait d'assouplir un peu votre décision. Mais d'évidence, elle vous protège, elle vous permet de vivre, enfin, vous le dites vous-même. La seule question, c'est est-ce que vous pensez pouvoir introduire quelques conventions de ce type, dans la mesure où ça servirait surtout à ce que vous, vous vous sentiez bien avec l'idée que vous faites le minimum pour vos parents ?
Oui, oui, tout à fait. En plus, normalement, je ne suis pas quelqu'un de... Enfin, je dis ça, mais c'est vrai que j'ai fait ça plusieurs fois dans mes relations aussi. C'était très bizarre de bloquer les gens comme ça du jour au lendemain, parce que sûrement, j'ai... Je n'ai pas totalement appris certaines formes de communication, mais oui, en soi, voilà, sans venir à des messages comme ça. Mais le problème, c'est que c'est quelqu'un qui vous, et je parle de mon père, hein, qui vous suce le sang, en fait. Donc je sais que si j'ouvre une porte, Là, si je le débloque, à mon avis, de mon téléphone, je dois avoir peut-être 15 messages.
Un déluge de messages.
Des choses où il... Voilà, c'est du chantage. Combien de fois il m'a dit, par le passé, quand on était jeune, bah, alors, si vous sortez ce vendredi soir, peut-être que quand vous rentrerez, je me serais suicidé. Des choses comme ça, alors que vous avez 17 ans, quoi. Enfin, terrible, ce mec.
Je suis certaine, Sophie, que vous avez pris la seule décision possible pour trouver une certaine paix dans votre vie et pour pouvoir construire. Maintenant, la question va être peut-être à quel moment, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir tenter des doses homéopathiques de relations. Et quand j'entends des doses homéopathiques, c'est pas essayer de leur faire comprendre quoi que ce soit à vos parents. C'est quel niveau minimum de relation vous pourrez avoir pour vous vous sentir, j'allais dire, tout à fait bien dans votre décision. Par exemple, que vous puissiez ne pas les bloquer en sentant que vous avez suffisamment de force pour ne pas lire, par exemple, ou ne pas être ravagé quand vous voyez les messages, ou... quand vous aurez suffisamment de force pour vous en tenir à quelques messages de courtoisie. Et si jamais ça ne vous semble pas possible et que l'agitation s'engouffre à nouveau, je crois que vous n'aurez pas d'autre choix que de revenir à votre décision radicale.
Ouais, c'est tout à fait ça, je pense. Bah
oui. Bah oui, et vraiment, les doses homéopathiques, en étant très attentive à vos émotions, et si vous voyez qu'à nouveau, pour vous, le trouble s'engouffre, mais je crois que vous aurez toutes les raisons de choisir maintenant votre propre vie. Vous avez payé beaucoup, maintenant vous avez la liberté de vous construire. Je crois que vous vous devez bien ça, de vous choisir vous.
Ouais. Merci, en tout cas ça fait du bien d'entendre ça, et puis cherchez pas une forme de validation, mais je sais pas trop ce que je cherchais finalement, mais c'est vrai que vos mots me font du bien et confirment le diagnostic que j'avais.
Mais oui. Oui, là, il y a vraiment, et puis pour vous appuyer, Sophie, il y a vraiment un diagnostic clinique derrière ce que vous dites. Là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'anomalie, quelque chose sur quoi vous ne pouvez rien, qui était là bien avant votre naissance, dans quoi, hélas, vous avez été prise et sur quoi vous n'avez malheureusement aucune influence. Donc maintenant, la seule chose que vous puissiez faire, c'est le mieux pour votre propre vie.
Ouais, c'est ça, tout à fait.
Et pour vous aider encore, Sophie, je vous cite des messages vraiment qui arrivent. Beaucoup de messages par SMS sur la page Facebook. Nicolas qui dit « Le papa de Sophie a l'air dominateur et destructif. Je lui partage tout mon courage. Elle mérite à son tour la belle vie. Mais le mieux sera sûrement de rester à distance de son père, malheureusement. » Voilà, donc là, il vous soutient pleinement. Et Pascal qui dit « Son père se nourrissait de la terreur de ses enfants. Il faut couper les ponts. » Donc il me semble qu'il y a beaucoup de justesse dans ce qui vous est adressé là.
Ouais, tout à fait. Merci, merci à tout le monde. Merci d'avoir pris le temps, en tout cas, de me répondre et de me conseiller.
Écoutez, avec plaisir. Vous avez eu beaucoup de courage pour rompre. Parfois, il en faut plus pour rompre que pour rester dans la situation qui fait souffrir. Donc, on ne peut que vous souhaiter du courage encore, Sophie.
Tout à fait.
Merci à toutes. Et belle continuation.
Et à vous aussi. Et bon courage, RTL.
Merci beaucoup. Au revoir, Sophie.
Au revoir, madame.
Sabine Calégari, parlons-nous jusqu'à 1h sur RTL.